Bonjour tout le monde. On s'en va immédiatement au point de presse de François Legault sur le coronavirus. On est en direct.
La propagation du virus. Donc, notre grande priorité, on aura l'occasion, par exemple, de se parler d'économie au cours des prochains jours, mais notre grande priorité actuellement, c'est la santé publique. On doit se protéger. Et la meilleure façon de protéger nos proches, c'est de se protéger nous-mêmes. Donc, je veux faire appel à la solidarité des Québécois, au sens des responsabilités de tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui ont des symptômes comparables à la grippe de se placer en isolement volontaire pour 14 jours. Donc, toutes les personnes qui reviennent de tous les pays étrangers, je demande de vous mettre en isolement pour 14 jours. Pour les employés de l'État et des réseaux, de la santé, de l'éducation, des services de garde, l'isolement va être obligatoire, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, donc toutes les personnes qui travaillent dans ces réseaux qui reviennent de l'étranger, devront obligatoirement se placer en isolement. Toutes ces personnes vont continuer d'être payées. Je parle des personnes qui travaillent dans le secteur public. Pour ce qui est du secteur privé, bon, d'abord, je veux demander aux employeurs d'être compréhensifs. C'est très important que toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui soupçonnent d'avoir des symptômes, de rester à la maison. On va, dans les prochains jours, annoncer des mesures financières pour compenser ces personnes-là qui travaillent dans le secteur privé. On va aussi, au cours des prochains jours, annoncer des mesures pour aider toutes les entreprises qui ont des problèmes de liquidité dus aux impacts du coronavirus, donc on va laisser tomber personne. Je demande aussi à tous les organisateurs d'événements intérieurs de plus de 250 personnes d'annuler ces événements. Et je demande aussi de façon générale d'annuler tous les événements qui ne sont pas nécessaires. Je demande aussi à tous ceux qui sont capables de faire du télétravail de le faire. Évidemment, je le rappelle, il faut se laver les mains régulièrement, puis au moindre doute, il faut s'isoler et il faut aller se faire tester. Je demande, évidemment, aux Québécois de porter une attention spéciale aux personnes vulnérables, en particulier nos aînés. Que nos aînés habitent dans leur maison ou dans toutes sortes de centres d'hébergement, si vous revenez de l'étranger ou si vous avez des symptômes comparables aux symptômes de la grippe, n'allez pas visiter les aînés. C'est important. Ce sont les personnes qui sont les plus à risque. Donc, tout le monde, tous les Québécois doivent faire leur part, mais je veux, en terminant, dire un mot spécial pour tout le personnel du réseau de la santé. Vous êtes actuellement nos anges gardiens. Je veux, au nom de tous les Québécois, vous dire un énorme merci. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a des heures qui sont longues, que ça va être difficile pendant plusieurs semaines. Donc, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous appuyer de toutes les façons possibles. Donc, je le répète, les prochaines semaines vont être critiques pour la propagation du virus, mais il faut être réaliste, on est dans une crise qui va durer des mois. Donc, il faut se préparer. Je vais, à tous les jours, faire le point avec les Québécois et je suis convaincu qu'on est capable, tous ensemble, de passer au travers de cette épreuve. Merci. On va prendre les questions.
Alors, on va commencer avec Alain Laforêt, TVA.
Monsieur et dame, bonjour. Les échos qu'on a, Monsieur le Premier ministre, c'est que dans le réseau de la santé actuellement, ils sont débordés, Il y a des cas qui rentrent dans les hôpitaux et qu'ils ne peuvent, et les consignes ne sont pas claires. Les médecins ne savent quoi pas faire avec les patients. Ils disent qu'ils ne sont pas équipés et qu'il y a des risques énormes de contamination. Est-ce que le personnel de la santé actuellement est équipé pour faire face à la crise et a des consignes claires?
Oui, le personnel a des consignes claires et le personnel est équipé. Alors, on a pris toutes ces mesures. Ça fait des semaines qu'on se prépare. Il y a des rencontres journalières avec les présidents-directeurs généraux des établissements. Il y a également des rencontres très soutenues avec les fédérations médicales et avec les instances syndicales. Alors, on continue d'être en contact de façon presque quotidienne avec ces instances et les consignes sont claires et le support à notre personnel, c'est notre priorité.
On a vu ce qui s'est passé en Italie très rapidement. Est-ce que vous écartez à court terme de faire des inspections, des vérifications, des tests à l'extérieur des réseaux de la santé, c'est-à-dire dans des tentes, avant que les gens entrent dans les hôpitaux?
On n'est pas rendu là à ce moment-ci, mais on est en train de regarder et même de travailler très, très activement la possibilité de faire des prélèvements à domicile. Mais là, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans le futur, même demain ou après-demain, il n'y aurait pas d'autres avenues qu'on va travailler. Mais pour le moment, les tests qu'on fait actuellement dans les cliniques, dans les hôpitaux, on pourrait en faire à domicile. C'est à ce point-là qu'on est rendu. Mais effectivement, si le besoin est, on pourrait avoir d'autres modalités.
Poursuivons avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour. Est-ce que, je vois, M. Legault, que vous êtes beaucoup dans la demande, en fait, vous demandez aux gens, puis, même dans les centres des CHSLD, les centres de personnes âgées, est-ce que vous pourriez aller un step plus loin, si on veut, là, une marche plus loin, et interdire carrément certaines visites dans les CHSLD, ou encore fermer les écoles? Est-ce qu'on est en train de songer à ça?
On n'est pas rendu là, mais à ce moment-ci, on ne peut rien exclure.
Mais c'est dans la possibilité de le faire. Vous êtes
ben,
en train
vous avez
de...
vu des pays qui le font, des pays qui sont plus infectés que le Québec. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les prochaines semaines vont être critiques. Les deux, trois prochaines semaines, on va voir comment les infections évoluent. Puis là, ben, les mesures pourraient évoluer.
Il y a des professeurs, on me dit, entre autres, qui sont allés à l'étranger. Il y a un cas, je pense, dans une école en Outaouais et qui est revenu d'Italie et puis qui enseigne quand même. L'école l'a laissé enseigner. Est-ce que ça, c'est pas un manque de prudence?
Absolument. D'ailleurs, je l'ai dit clairement, là, ça va être obligatoire pour les professeurs, les gens des réseaux de la santé, des services de garde, de s'isoler 14 jours lorsqu'ils reviennent de l'étranger. Donc ça va être clair, puis ces personnes-là vont continuer d'être payées. Donc je pense que le signal qui est important d'envoyer, c'est que dans le réseau public, le gouvernement va payer pour les personnes isolées. Maintenant, au cours des prochains jours, on va annoncer des mesures pour le secteur privé parce que faut que ça soit la même chose dans le secteur privé.
Robert Dutrisac, Le Devoir.
Bonjour. Le premier ministre a parlé justement de freiner la contagion. Peut-être, M. Arruda, j'aimerais savoir les dernières connaissances sur la propagation du virus. Où est-ce qu'on en est? Autrement, et en fait, quel est le scénario le plus probable que vous envisagez à l'heure actuelle pour le Québec? Donc, ce que vous semblez dire, c'est qu'il y a une assurance, qu'il y a ce qu'on appelle une contagion communautaire. Et je voudrais savoir si vous avez des projections, justement, sur le taux de létalité et également ce que vous envisagez comme contagion.
Il faut comprendre qu'il y a encore beaucoup de... C'est un nouveau virus, il y a encore beaucoup de données, puis les études qui ont été faites dans certains pays ne sont pas encore complétées. On n'a pas fait d'études sérologiques pour connaître le total de gens hospitalisés, mais on fonctionne sur la base de scénarios de ce qu'on connaît et d'interprétation des différentes. Vous pouvez vous parler à différents gens qui font de l'économie, de projection des causes. Vous allez avoir des scénarios qui vont varier selon ce qu'on met comme hypothèse. OK? Habituellement, on pense que ça pourrait atteindre à peu près entre 30 jusqu'à 70 % de la population si rien n'est fait. Vous comprendrez que si rien n'est fait, à ce moment-là, ça veut dire que ça va rentrer. Comme nous sommes une population vierge au virus, c'est un nouveau virus, c'est normal que quand il vient, il va trouver plus de monde qui sont susceptibles, donc il va y avoir plus de cas. Et c'est un virus qui se propage plus que la grippe, OK? Il se propage plus en termes de R0, c'est le nombre de cas que génère chacun des cas. Mais si on est en mesure, par nos actions, ou parce que le virus ne va pas sauter d'une personne à l'autre s'il n'est pas... C'est par nos actions qu'on est en train de mettre en place. Ce que recommande l'OMS, ce que recommande le plus grand expert qui est allé en Chine, c'est véritablement cette approche très agressive au départ qui va diminuer l'introduction et qui va l'étaler. On ne pourra pas, écoutez, très honnêtement, je ne pense pas qu'on va avoir 13 cas, puis ça va redescendre, puis ça va être zéro. Je pense que c'est presque impossible compte tenu de ce qui circule. Ça va diminuer au printemps, ça va peut-être reprendre à l'automne, on ne sait pas encore. Mais si on est très agressif maintenant, puis nous, on a un profil très différent de la Colombie-Britannique, eux, ce sont les Chinois qui les ont infectés à travers les vols qui sont ici. Nous, la France, l'Italie, ce sont des pays où il y a beaucoup de circulation. Donc, si au début, on met des mesures importantes, notamment que les gens, parce que les gens peuvent traverser la frontière sans aucun symptôme, mais arriver ici, être malade, puis répandre la maladie ailleurs. Donc, c'est pour ça que le gouvernement joue un rôle de leadership important, à mon avis, ici, c'est de dire on y va fort au départ pour être capable, une courbe d'épidémie, au lieu qu'elle soit comme ça, qu'elle monte très haut, puis qu'elle redescende, puis là, ici, on n'est plus capable de traiter des patients, on manque de soins intensifs, on va étaler la courbe comme ça, de telle sorte qu'on va demeurer en capacité, on va sortir aussi de la saison hivernale des grippes et des virus, ce qui va nous aider à faire les diagnostics. On va tester beaucoup de monde, on va enquêter chacun des cas pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. On va rapidement prendre des personnes, des contacts étroits, les mettre en isolation. On est clair qu'on brime un peu les droits individuels, mais c'est pour le bien collectif et c'est pour le bien des personnes. Je pense que notre système, on fait appel à la solidarité de toutes les gens. Les gens doivent être aussi responsables par rapport à leur comportement. Quand on dit « vous revenez de voyage, faites une isolation volontaire », c'est une bonne chose. On essaie de ne pas contaminer les autres. Ces comportements-là, il y a seulement les personnes qui peuvent le faire. Puis nous, on va être de notre côté. Puis on va aussi permettre à donner les moyens aux gens d'être capables de le faire, là, parce que si ça les brime trop. Mais on est rendu à ce stade-ci. On est rendu à un stade où la liberté des personnes peut-être, puis c'est la loi de santé publique qui le permet, le contenu de la menace, peut-être être moins importante que le bien collectif, parce que sinon, c'est tout le monde qui va y payer. Ça pourrait même être vous qui, plus tard, pourriez être infecté et ne pas pouvoir être traité de façon adéquate. On est à ce stade-ci, et pour ne pas être à courir, si vous me permettez, après notre queue, parce qu'il va être trop tard.
Mais vous pouvez traiter combien de personnes à ce moment-là sans que le système déborde? Combien de gens infectés vous pouvez?
On est en train de faire ces calculs-là. Il faut comprendre que ça va dépendre des choses. Dans un scénario hyper catastrophe avec des taux de létalité à 6 % etc., là, ça va être difficile. Mais on ne pense pas que c'est là qu'on va être. On va peut-être être un peu plus que le H1N1, qui d'ailleurs était très fort à Winnipeg au printemps et qui est devenu faible au Québec. D'ailleurs, on s'est fait dire qu'on avait trop fait de choses à ce temps-là parce que ça n'avait pas été si pire. Moi, je préfère être prêt, à mon avis, que de dire qu'il est trop tard. Fait que les calculs se font, ça va dépendre. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être traités à l'externe, okay? Donc on peut avoir des milieux hospitaliers. Il y a des ailes d'hôpital qui peuvent être transformées. Il y a des respirateurs qui peuvent être ajoutés, etc. Mais ce peaufinement-là est en train de se faire. Là, je ne voudrais pas vous donner un chiffre aujourd'hui qui ne serait pas adéquat, mais on va revenir avec ça. Le ministre nous demande ces scénarios-là comme tels. Fait qu'on va vous revenir avec cet élément-là. Puis comme je vous le dis, c'est des situations qu'on va évaluer jour par jour par jour. On est en lien avec les fédérations, on est en lien avec les microbiologistes, on est en lien avec les intensivistes pour la partie clinique, là. Puis tous mes directeurs de santé publique au Québec appuient cette recommandation-là, qui, à mon avis, est la recommandation et la décision que le premier ministre a prise pour la santé de tous. Et on interpelle la population à faire ce que je dis. Et je vais vous parler encore du lavage de mains puis de l'hygiène respiratoire. C'est très important. Je pense que c'est ces choses-là.
Merci. Hugo Pilon à La Rose, La Presse. Les citoyens qui nous écoutent à la maison et qui peuvent s'inquiéter, M. Arruda, de toutes les informations qu'on entend en ce moment, est-ce qu'ils doivent, de façon préventive, modifier certains comportements, par exemple, cesser d'aller au gym ou qu'on partage de l'équipement sportif avec beaucoup de personnes, ne plus fréquenter les spas, limiter les déplacements dans les centres d'achat? Est-ce qu'on est rendu là?
Écoutez, je pense qu'il faut y penser, OK? Et je vous dirais qu'il faut utiliser notre intelligence. Actuellement, il n'y a pas de circulation du virus. Tu sais, des gyms où il y a de la transmission, il n'y en a pas. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, actuellement, certains... c'est clair qu'on vient d'interdire les rassemblements intérieurs en haut de 250. S'il y a des... Un, surtout pas si vous revenez de voyage ou vous commencez à avoir des symptômes, allez pas voir nos personnes âgées. Téléphonez-leur. Tu sais, il faut prendre des habitudes. Là, on devrait faire ça dans toutes les saisons de grippe, vous comprenez, parce que ces gens-là sont très vulnérables. Dans les transports en commun, on va en arriver à dire aussi, essayer de limiter, on peut étendre, il y a des heures de pointe, à un moment donné, il y a trop de monde, on peut essayer de partir un peu plus bonne heure, un peu plus tard, les employeurs pourraient faire cette recommandation, particulièrement quand il va y avoir de la circulation. Mais c'est sûr qu'on va devoir changer nos comportements. Puis c'est pas parce que le métro nettoie son poteau qu'il faut pas se laver les mains, le poteau il va être lavé, mais la personne peut tout de suite après le recontaminer, donc lavez-vous les mains, prenez ça. Quand vous êtes malade et vous avez le rhume, essayez pas de vous coller sur les autres, etc. C'est tout ce genre de petits comportements. La somme de tout ça va faire qu'on va avoir un impact sur la maladie. Mais tout le monde doit le faire, à mon avis. Puis, comme dit le ministre, on va revenir au jour le jour. Si on se rend compte qu'il y a de la transmission dans une ville et qu'il n'y en a pas ailleurs, on va évaluer la situation. S'il y en a partout au Québec, c'est pas les mêmes recommandations que dans une ville. Parce que vous devez penser, est-ce qu'on va mettre une île, une ville, une île ou en quarantaine? Il faut regarder notre épidémio. Et ça, c'est très important. On s'inspire de ce qui se passe ailleurs, mais on n'est pas la Chine, on n'est pas la Corée du Sud, on n'est pas la Finlande. On est le Québec.
Dans les scénarios que vous étudiez en ce moment, y a-t-il le scénario où l'île de Montréal est mise en quarantaine?
Écoutez, je vais vous le dire... Tout est possible en termes de scénario. On va prendre la décision qui est logique, qui est objective par rapport à la situation. Je veux dire, je parle de ça parce qu'on voit que les zones d'autres pays ont été isolées, là. Mais actuellement, déjà au Québec, là, les cas où qui reviennent de l'extérieur, hein, sont éparpillés un peu dans le Québec, surtout dans les régions où il y a plus de monde. Plus de monde, plus de probabilité de faire un voyage, plus de probabilité de faire un voyage, plus de chances que le virus se retrouve là. Mais ça va dépendre de la transmission. Mais je vous dis, rien n'est exclu. Les pouvoirs du directeur national par rapport à la loi de santé publique et les pouvoirs de la sécurité civile par rapport à la loi de la sécurité civile permettent de faire des quarantaines, permettent... Moi, c'est un isolement obligatoire parce qu'on réserve le mot quarantaine au fédéral.
Merci, Hugo. Charles Lecavalier, le Journal de Québec.
Juste au début, une petite précision. Là, vous parlez, est-ce qu'on a interdit les rassemblements de 250 personnes et plus ou vous demandez aux organisateurs de les annuler? C'est interdit. Ah bon, OK. Sur le nombre de tests, hier, bon, vous avez dit qu'on avait 200 tests par jour. J'imagine que vous voulez en faire plus. Là, il semble qu'une des clés du succès, c'est de faire un repérage rapide. Donc, la semaine prochaine, si on dit dans une semaine, on va avoir combien de tests par jour?
On va l'augmenter, mais je ne veux pas vous donner le chiffre aujourd'hui parce qu'on okay. On garde... Il faut faire certaines validations, vérifications. Il faut vous comprendre là, que ça va vite. Hein? Je sais pas si vous comprenez, là, ça va très vite. Mais dans nos scénarios, on est en train de les calculer. Là, mais on va vous les communiquer après validation, etc. Parce qu'il faut vérifier aussi la disponibilité de matériel, etc. auprès des compagnies. Mais on va le faire. C'est clair qu'on va augmenter la capacité de tests. Puis on va utiliser les tests là où c'est nécessaire en priorité, c'est-à-dire sur les personnes qui reviennent de voyage puis qui ont des symptômes. Puis éventuellement, c'est de la transmission locale. À ce moment-là, les tests vont se faire de façon beaucoup plus importante, mais on n'en est pas là, heureusement.
Et en ce moment, il y a combien de lits là, d'urgence là, qui sont disponibles pour l'épidémie, la pandémie de coronavirus?
Bien, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a fait le relevé des chambres à pression négative. Ça, c'est des chambres très importantes là, pour des troubles respiratoires comme le coronavirus, des gens qui nécessiteraient une hospitalisation. On en a environ 900 chambres à pression négative. Mais ce que je veux vous dire aussi aujourd'hui, c'est qu'on a des possibilités dans notre réseau de délester des activités qui sont moins essentielles. On le fait dans la situation du H1N1. Alors, on prépare aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, on va commencer à délester graduellement certaines activités parce que là, on a une demande, évidemment, auprès de nos équipes là, de s'occuper de ce dossier-là en priorité. Mais on a la possibilité de délester un certain nombre d'activités qui ne sont pas urgentes. C'est ce qu'on a fait dans le H1N1, ce qui augmente notre capacité de recevoir des patients qui auraient le coronavirus.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Interdire les rassemblements de 250 personnes, les gens qui arrivent de voyage se mettent en quarantaine.
Par contre, ici, en fin de semaine, je sais que c'est un événement extérieur, mais juste à côté, il y a la Coupe du monde de ski de fond. Plusieurs centaines de gens qui arrivent d'autres pays, 13 pays. Donc, ça me semble contradictoire.
Moi, monsieur le premier ministre. L'information que j'ai actuellement, c'est que l'organisation de l'événement est en discussion avec la Fédération internationale. Alors, il y a des discussions à ce moment-ci qui se font concernant l'événement en question.
Juste préciser aussi, la directive, c'est concernant les événements intérieurs.
Tout à fait. Si vous me permettez, M. le ministre, c'est important parce que, vous savez, le virus, il s'épand au maximum un mètre en avant, un mètre en arrière, surtout, à peu près 2 mètres autour de la personne. Et à l'extérieur, le vent va rapidement les envoyer et c'est pas le même genre de contact étroit. Donc, dans ce contexte-ci, comme il n'y a pas non plus de transmission locale, ça, c'est une chose encore, je pense que ça peut... Bien, ils vont évaluer la situation, mais la recommandation aujourd'hui, c'est vraiment pour les événements intérieurs. Puis quand on parle de ça aussi, c'est des événements, on ne parle pas de situations où on va faire du magasinage quelque part puis il y a beaucoup de personnes. Là. On est vraiment dans, on fait une activité, cette activité-là, puis même à la limite, on le dit 250, mais quelqu'un pourrait décider là, qu'une réunion qui n'est pas essentielle est à 200 ou à 150, puis peut décider de la tenir dans l'autre modalité. On n'est pas en train de dire que le 250, c'est le chiffre magique. Là. On fait une analyse des situations actuelles. Puis,
malheureusement, le match ne pourra pas être vu par des spectateurs. Il ne pourra pas avoir de spectateurs.
Les prochains matchs des Canadiens vont être à huis clos, c'est ça que vous dites, là?
Ce qu'on dit, c'est que les prochains matchs du Canadien ne pourra pas avoir de spectateurs puisque c'est un événement intérieur avec plus que 250 personnes.
Et chez la presse canadienne.
Bonjour à tous. Ma question s'adresse à M. Arrida.
Oui, bonjour.
J'aimerais savoir, dans un calcul de probabilité, quelles sont les chances à ce moment-ci pour le Québec d'éviter le scénario catastrophe de l'Italie?
Ça va dépendre, si vous me permettez, du respect de l'application des mesures qu'on met en place. Vous savez, là, le premier ministre demande des choses. Si les gens le font, ça augmente notre probabilité. Est-ce qu'on va la réduire de 50 % de 30 ou de 20? Toute réduction va être importante. Je veux dire, si on réduit juste, mettons, de 10 % la courbe à un moment donné, c'est 10 % de moins et moins de personnes qui vont être. Mais je pense, honnêtement, que ça va être efficace. Ça a été démontré dans d'autres situations. On pourra avoir véritablement une baisse importante du pic, mais surtout aussi son étalement. Parce que si, je vous le dis, le pire, c'est que tout arrive en même temps et qu'on soit obligé de demander faire des choix à dire est-ce que c'est cette personne-là qu'on traite ou l'autre. Et ça, on ne veut pas arriver à ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut aussi protéger nos vulnérables. Quand on vous dit là, de ne pas aller visiter des personnes âgées dans les centres d'accueil, c'est pour pas les amener à la maladie, parce que si on ne rentre pas le virus dans le centre d'accueil, il n'y aura pas la maladie.
D'ailleurs, j'aimerais peut-être mentionner que d'ici demain, dès demain, dans tous les CHSLD, il y aura à la porte une personne responsable de la sécurité qui va poser les questions par rapport à « Avez-vous voyagé? Il faudrait vous laver les mains? » Poser les questions d'usage pour être absolument certain que si on n'est pas obligé d'aller visiter nos personnes vulnérables dans les CHSLD, qu'on s'abstienne. Normalement, je vous dis le contraire, aller visiter nos personnes âgées parce que les gens vivent une situation d'isolement, mais là, je suis en train de dire, si vous sentez que vous avez un syndrome d'allure grippale, si vous toussez, si vous avez des problèmes respiratoires, si vous avez voyagé au cours des 14 derniers jours, n'allez pas visiter nos aînés dans les CHSLD. Et on a un guide aussi qui a été fait en 2009 pour justement contrer une pandémie d'influenza qui a été revue concernant le coronavirus, la COVID-19. Et tous les établissements maintenant ont ce guide qui s'adresse particulièrement aux professionnels de la santé.
Une question au premier ministre, s'il vous plaît, à propos des voyageurs arrivant de l'étranger. Les mesures dont vous parlez aujourd'hui sont quand même incitatives. Est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous avez le pouvoir dans les prochaines semaines, si la situation dégénère, d'empêcher des gens de débarquer au Québec?
Évidemment, il faudrait le faire avec le gouvernement fédéral. Ça va faire partie des discussions, surtout avec la décision que M. Trump a prise hier soir. Donc, ça fera partie des discussions avec le gouvernement fédéral.
Mais la santé publique... Songez à ça sérieusement. Est-ce que c'est un scénario probable, possible?
On ne l'exclut pas.
Les Radio-Canada.
Oui, bonjour. Juste une précision rapidement. D'abord, pour ce qui est de la quarantaine pour les employés de l'État, ça s'applique à tous les employés de l'État, ne serait-ce que quelqu'un qui est allé faire du ski une journée au Vermont, ça s'applique à lui. Tout voyage à l'étranger.
Absolument.
OK. En ce qui concerne les rassemblements de 250 personnes, il y a des écoles secondaires au Québec où il y a plus de 250 élèves, 1000, 2000. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas ces écoles?
On va s'assurer, effectivement, dans certaines universités, il peut y avoir des amphithéâtres qui ont plus que 250 personnes. On parle de 250 personnes dans une salle. Il peut arriver que dans une cafétéria, dans une école, il y ait plus que 250 personnes. Donc, il va falloir avoir le repas qui va être divisé par groupe. Donc, ce qu'on demande aussi à nos écoles, c'est nos écoles, nos cégeps, nos universités, c'est de jamais avoir plus que 250 personnes dans la même salle. C'est une question de probabilité. C'est la recommandation de la santé publique.
Pour faire un suivi à la question précédente de ma collègue, on a vu beaucoup de reportages ces derniers jours de gens justement dans les aéroports qui arrivent d'Italie, par exemple, qui racontent à la télé, on nous a remis un feuillet explicatif, pas plus de vérification. Est-ce que ça vous semble normal? Est-ce qu'il n'y aurait pas des précautions additionnelles à prendre que vous pourriez suggérer au gouvernement fédéral?
Exactement. Ce qu'on souhaite avec le gouvernement fédéral, comme vous le savez, on ne peut pas avoir un test qui est concluant avec les personnes qui arrivent à l'aéroport. Mais on peut, par contre, donner des directives très claires de dire, si vous avez des symptômes, pendant 14 prochains jours, soyez prudents. D'abord, n'allez pas visiter des personnes âgées. Mettez-vous en isolement. Puis s'il y a des symptômes, allez vous faire tester. Donc, il faut surtout informer les voyageurs. Mais c'est quelque chose qu'on discute avec le gouvernement fédéral.
De façon très rapide, donc question courte, réponse courte. Fanny Lévesque, La Presse.
Dans les nouveaux cas confirmés, est-ce qu'il y a des cas qui touchent du personnel de santé comme des médecins ou des infirmiers?
Docteur Arruda.
Écoutez, vous comprendrez qu'on a au Québec une très grande importance pour la question de la confidentialité, particulièrement les autorités de santé publique. Il y a des maladies à déclaration obligatoire qui sont des maladies transmises sexuellement, etc., etc. Et quand, là, il y a des petits nombres, OK? Nous, là, on veut protéger l'information. Quand vous dites, il y a tel un médecin, une infirmière de tel hôpital, etc., je ne sais pas si vous comprenez, on donne une information qui est une piste pour l'identification. Je suis convaincu que vous-même ou moi-même ou n'importe qui d'autre n'aimerait pas qu'on soit ciblé. L'information, que ce soit médecin ou pas, s'il y a jamais des interventions à faire, c'est des patients, on va les faire, etc., mais on essaie de ne pas rendre public ces choses-là. Des fois, les journalistes vont le faire, vont retrouver la personne va accepter de le faire, ils peuvent le faire, mais nous, là, il n'y a jamais eu de faille en termes de confidentialité au Québec sur les maladies à déclaration obligatoire, et je sais, je me rappelle très bien dans l'épidémie où on avait la méningite du méningocoque, qu'il y en avait eu à Québec, là, les enfants mouraient dans les écoles, il y avait des enfants dans des garderies. Les gens voulaient connaître le nom de la personne, etc. C'est jamais sorti de notre côté. C'est sorti notamment par la presse, etc. Fait que dans ce contexte-là, si vous me permettrez, je vous dirais qu'il peut y avoir des fois... il peut y avoir des professionnels de la santé ou d'autres, mais l'important, ce que vous sachiez, c'est que ce soit une personne ou l'autre, on va faire les interventions qui vont être efficaces.
Est-ce que vous considérez toujours que le risque est faible au Québec pour de contracter le coronavirus?
Je vous dirais qu'actuellement, le risque est encore faible parce qu'on n'a pas de circulation importante. La projection va faire qu'on va avoir de la transmission. Puis ce qu'on veut faire, c'est d'un risque très élevé, la baisser à modéré faible. Je dirais modéré moyen, là. Il restera pas fait parce qu'il va y avoir de la circulation. Il va y avoir de la circulation éventuellement. Mais à date, on est chanceux. Tous les cas qu'on a eu au Québec, ce n'est pas des cas qui sont le deuxième cas, le frère, le beau-frère de quelqu'un qui est allé en voyage puis qui l'a attrapé. C'est carrément des gens qui sont venus de voyage.
On va bientôt passer.
Mais ça va arriver comme c'est arrivé ailleurs en Colombie-Britannique.
On va bientôt passer aux questions en anglais. Juste avant, j'ai Michel David et Emilienne Crête. Madame Crête, d'abord.
Je voulais savoir, est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable de prendre ce genre de mesures musclées-là avant le retour des gens après la semaine de relâche, là, parce qu'on sait que les gens vont en voyage pendant cette période-là?
Mais il faut avoir certains indices. Je vais vous dire, ces mesures-là ont été prises dans des pays alors qu'il y avait des milliers de cas. Donc, déjà, on est beaucoup en avance par rapport à ça. Il faut voir aussi, l'OMS a déclaré la pandémie, mais on allait, indépendamment que l'OMS a déclaré la pandémie, comme hier, on est passé de 8 à 11 cas dans la soirée, ce qui augmente une certaine accélération. Je pense qu'on est assez tôt dans les éléments. On peut toujours dire, il y a aussi une question d'acceptabilité sociale de la population, parce que avoir voulu implanter ça dès, mettons, là, j'aurais dit, je vais me projeter, parce qu'on savait qu'on allait arriver à ces mesures-là éventuellement en janvier, on m'aurait dit, mais Dr. Arruda, qu'est-ce qui se passe avec vous? Et l'acceptabilité sociale des gens à ça, à le faire, parce qu'on a beau le faire, mais il faut que les gens le fassent. Et là, je pense que la société est mûre à ça. Les gens commencent à être plus inquiets. On a vu l'expérience de l'Italie. On est en relation avec les Français en termes de voix. Moi, je pense qu'on est au contraire proactif. Ailleurs, au Canada, ça ne s'est pas encore fait. Ça va probablement se faire, je ne sais pas, comme tel. Mais moi, au Québec, je veux dire, comme directeur national, et mes directeurs de santé publique et mes experts considèrent que c'est le momentum. Et on aurait eu de la difficulté à le faire peut-être antérieurement. C'est facile toujours de dire introspective, mais je vais vous le dire. Là, actuellement, là, le fruit, il est mûr pour être cueilli. Puis il n'est pas encore tout à fait mûr. Il n'est pas en train de devenir frippé. On arrive au bon moment.
Et donc, ce n'est pas nécessaire, donc, à ce moment-là, non plus, de fermer les écoles, parce qu'il y a certains experts qui prétendent que ce serait souhaitable.
Le ministre le dit.
Premier ministre.
C'est la première fois que je fais un point de presse avec vous. Je vous présente mes plus sincères excuses si je vous ai insulté. Mon Dieu Seigneur.
Premier ministre,
que je vais faire bye-bye. Infoman, excusez-moi, monsieur, le premier ministre. Il faut donc comprendre qu'on fait des annonces à tous les jours. Quand il va y avoir de la circulation locale, ça se peut qu'on ferme les écoles. Comprenez-vous? C'est que là, on fait ça sur la base des informations qui sont chez nous, puis on le fait en fonction de notre épidémiologie, qui n'est pas la même que celle de la Colombie-Britannique, puis qui n'est pas la même de l'Ontario. C'est pour ça qu'on fait de la surveillance, c'est pour ça qu'on est aux aguets, c'est pour ça que depuis le mois de, je dirais, mi-janvier, on est là-dessus, c'est pour ça que depuis le début janvier, on a commencé à penser à approvisionnement, masques, etc., etc. Parce qu'on l'a déjà vécu, puis on va faire mieux que la dernière fois, puis on va survivre à tout ça grâce à notre solidarité, puis la prochaine fois, on fera encore mieux.
De façon donc très rapide, parce que le temps file, puis que je veux laisser la chance à nos collègues des médias anglophones de faire leur travail également, il y avait Annabelle Blais du Journal de Montréal.
Bonjour. Juste pour que ce soit très clair, là, la loi sur la santé publique et les pouvoirs du premier ministre, donc vous pouvez forcer une personne à l'isolement obligatoire. Vous pouvez fermer tout lieu que vous jugez bon. Vous n'avez pas besoin, dans la mécanique, d'attendre quelconque déclaration du fédéral en lien avec la loi de la quarantaine?
Non, parce que c'est une évaluation, ce qu'on appelle d'une menace appréhendée. OK, la menace peut ne pas être là encore. Même à la limite d'une menace appréhendée, si nous jugeons que le bénéfice est plus grand pour la communauté que les droits individuels, on peut aller de l'avant là-dessus. On peut même obliger une personne à être traitée. Et si elle ne veut pas être traitée, on l'enferme complètement. Ça existe dans les cas de tuberculose. On a ces pouvoirs-là qu'on doit utiliser de façon intelligente, bien entendu, toujours avec la collaboration du maximum de monde. Mais ces pouvoirs-là sont là. On peut même déclarer une vaccination obligatoire d'urgence en cas d'urgence sanitaire, ce qu'on n'a jamais fait et qu'on espère jamais faire au Québec.
OK. Mais vous n'avez pas besoin de, le premier ministre n'a pas besoin nécessairement de déclarer un état d'urgence ou un état précis là, à ce pouvoir-là.
C'est-à-dire que deux lois, il y a la loi sur la sécurité civile qui, elle, est souvent étudiée dans les questions de catastrophes, etc. Mais là, on est véritablement dans un domaine de maladies infectieuses. On travaille avec nos partenaires de la sécurité civile parce que s'il faut falloir avoir de l'approvisionnement de nourriture ou certains éléments autres, on travaille avec tout le gouvernement qui travaille là-dessus. Mais on n'est pas actuellement régi par la loi de sécurité civile. Si c'est nécessaire parce qu'il y a un dysfonctionnement de la société, là, on peut utiliser cette loi-là.
Merci. Michel David.
De rassemblement d'événements comme un match du Canadien, mais dans un centre commercial ou par exemple au casino, il y a des personnes qui se déplacent. C'est pas un événement, mais il y a beaucoup de monde. Donc, est-ce que ça aussi, vous, à cette étape-ci, on interdit aux gens d'y aller?
Non, parce qu'on n'est pas encore, il n'y a pas de circulation intense chez nous. Puis ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on va voir que les gens vont commencer aussi à prendre ça en charge, puis ils vont éviter. C'est pas on est ensemble, tout le monde ensemble pendant 3 heures, puis on est enfermé, là. Quand vous allez chez votre les gens vont faire attention, vont faire de la distanciation sociale. Si vous voyez quelqu'un qui va tousser, va être mal vu dans le Costco, s'il ne fait pas des étiquettes respiratoires. Fait que c'est ça qui va être fait. Mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est en date d'aujourd'hui.
Merci. Michel David, Le Devoir. Ensuite, on passe en anglais.
D'aller aux États-Unis, mais alors en toute logique, il faudrait empêcher les gens qui viennent des États-Unis d'entrer au Québec. Je comprends que ce n'est pas le Québec qui peut décréter une fermeture de frontières et que vous allez en parler demain, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez proposer à vos collègues demain à Ottawa?
Bien, justement, là, je veux qu'on le fasse en collaboration. Je ne veux pas aller donner une réponse directe aujourd'hui, puis après, bon, en discuter dans un deuxième temps avec Justin Trudeau ou les premiers ministres des autres provinces. Moi, je pense qu'il faut le considérer sérieusement.
Est-ce que tout ce qui se passe là, votre gouvernement va être concentré là-dessus là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, est-ce que ça va avoir un effet sur un certain nombre de choses que vous vouliez faire et que vous alliez reporter? Et j'ai à l'esprit, par exemple, parce que vous allez exercer, il va y avoir beaucoup de pression sur le secteur de la santé. Il y a des négociations dans le secteur public actuellement qui peut créer un climat plus difficile. Est-ce que vous envisagez de faire une pause dans les négociations le temps que le pire de la crise passe?
Oui, effectivement, la question se pose, là, puis je commençais à en parler avec Christian Dubé, là, qu'est-ce qu'on doit faire concernant les négociations avec le réseau de la santé, parce qu'on va avoir besoin de leur appui, et évidemment, dans le cadre d'une négociation, il y a toujours un climat tendu qui peut arriver. Donc, on regarde différents scénarios avec le Conseil du Trésor pour voir comment on pourrait faire peut-être une entente spéciale avec le réseau de la santé.
Merci. On passe à l'anglais. Phil Autier de Gazette.
Alors, c'était donc le premier ministre François Legault, donc point de presse en direct depuis l'Assemblée nationale. Il était accompagné d'Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique. Il y avait également la ministre de la Santé, Danielle Mécan, et la ministre des Aînés, Marguerite Blais. En ma compagnie, Julie-Christine Gagnon, journaliste Cogeco. Bonjour, Julie-Christine.
Bonjour, Bernard.
Alors, faisons un petit résumé de ce que le premier ministre a annoncé. D'abord, c'est costaud, là. Honnêtement, c'est très costaud. Parlons d'abord des employés du service public. Donc, écoles, hôpitaux, fonctionnaires,
tous ceux de garde.
Exactement. Tous ceux et celles qui travaillent dans la fonction publique là, élargie, on leur dit quoi?
On leur dit, on demande aux voyageurs, toute personne là, qui arrive de l'étranger, donc un isolement obligatoire de 14 jours. Le premier ministre rassure les gens, ils seront payés, mais ils doivent donc rester à la maison pour 14 jours. Tous les gens qui travaillent pour le gouvernement, on le répète, professeurs dans le réseau de la santé, services de garde, les fonctionnaires qui arrivent d'un voyage à l'étranger.
Peu importe le pays.
Peu importe le pays, tout
vous
voyage
devez, vous devez vous mettre en isolement obligatoire et vous serez payé pour ce faire.
Voilà. Le premier ministre demande aux autres personnes qui arrivent aussi de l'étranger un isolement volontaire.
Et de 14 jours.
De 14 jours encore.
Peu importe le pays, encore une fois.
Peu importe le pays,
si
encore une fois.
Donc, si vous êtes revenu de voyage, même si vous êtes allé juste skier au Vermont, là.
Oui.
D'un dernier jour, si vous êtes allé skier au Vermont, le premier ministre vous demande de vous mettre en isolement volontaire.
Oui. Et là, le premier ministre demande aux entreprises privées de collaborer parce que, bon, on sait que le gouvernement va payer les employés, les fonctionnaires.
Oui.
Mais on demande aux entreprises privées là,
de faire preuve de compassion.
Voilà.
Hein?
De peut-être faire la même chose là, pour ne pas contaminer tout le monde.
Et là, ils vont annoncer dans les prochains jours là, des mesures pour venir en aide au secteur privé.
Oui, on va mettre de l'argent, c'est ce qu'on a dit. Exact. Mesures financières pour aider les gens malades et pour les entreprises touchées par cette crise-là. Ce qu'on a fait aujourd'hui, là, le point de presse, on le résume, là, Bernard, là, c'est qu'on met en place des actions très, très, très agressives.
Oui.
Les gens peuvent se sentir un peu brimés dans leur liberté.
Oui.
Mais ce qu'on veut faire, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de pic, qu'il n'y ait pas une courbe là, avec des cas qui augmentent de façon exponentielle. On veut étirer la chose pour permettre au système de santé de pouvoir
gérer ça. De pouvoir prendre les cas de personnes malades. Puis dans le fond, si on voulait résumer, avoir assez de place dans les hôpitaux et dans les cliniques pour traiter les gens qui sont malades. Et
pas donc, avoir à choisir,
oui,
comme
exact.
On a vu en Italie.
Exact.
Entre une personne âgée ou une personne plus jeune.
Tout à fait.
Autre chose aussi importante, on interdit les événements intérieurs de plus de 250 personnes. On a dit aussi, parce que si on l'attendait, Gary Bettman doit faire le point là, autour de 13 heures,
ouais.
Mais le premier ministre a dit que les matchs du Canadien seront présentés à huis clos.
Oui.
Il n'y aura pas de spectateurs.
Est-ce que Bettman va annoncer l'annulation carrément de la saison comme la NBA le fait?
La MLS
comme la
le
MLS
fait.
Vient de le faire? Ou en tout cas, selon le Sports Illustrated, ils allaient le faire.
C'est confirmé maintenant.
Alors, est-ce que Bettman va annoncer que c'est la fin de la saison de la Ligue nationale? On verra bien, mais chose certaine, pour ce qui est des matchs du Canadien jusqu'à la fin de la saison, c'est terminé. Il n'y aura plus de spectateurs.
Non, ça se fait à huis clos. On veut limiter le nombre, les endroits où il y a à l'intérieur surtout, où on retrouve beaucoup de monde
oui.
pour éviter que le virus se propage. C'est ce qu'on veut faire. Et là, on pense tout de suite aux écoles, aux universités. Le gouvernement recommande aux écoles un maximum qui est dans les cafétérias, par exemple, dans les amphithéâtres, un maximum de 250 personnes.
Oui.
Parce qu'on sait que dans certaines cafétérias d'écoles secondaires, par exemple, on compte de milliers d'étudiants. Et là, on dit, essayez, prenez des mesures pour faire en sorte...
Séparer les groupes.
Pour qu'il y ait 250 personnes
maximum.
À la fois, pas plus.
Exact.
Voilà.
Très bien, Julie-Christine Gagnon. Je sens qu'on va se reparler parce qu'à partir de maintenant, tu vas être comme notre reporter nouvelle COVID-19. Hein, tu vas être la spécialiste de toutes les nouvelles du coronavirus.
Ça bouge tellement vite, Bernard.
Oui.
Il y a des informations qui arrivent au compte-gouttes là. Et on apprend aussi que l'épouse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, donc Sophie Grégoire, qui a commencé à ressentir des symptômes qui s'apparentent donc au coronavirus, comme la fièvre, à la suite d'un retour d'un séjour à Londres. Alors, le premier ministre aussi qui a annulé la rencontre avec les premiers ministres des provinces, j'imagine qu'ils vont se parler au téléphone, ce serait peut-être sage.
C'est ce qu'ils vont faire. Et justement, on va aller rejoindre... Merci, Julie-Christine. On va aller rejoindre Marie Vastel, qui est correspondante parlementaire du Devoir à Ottawa. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Donc, le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau, qui se sont mis en isolement volontaire en attendant de savoir s'ils ont le coronavirus. C'est bien ça?
Oui, voilà. Donc, première précision, M. Trudeau n'a pas de symptômes, il faut quand même le préciser, mais comme disait votre journaliste avant moi, donc Sophie Grégoire, son épouse, qui est revenue de Londres, se sentait pas très bien, faisait de la fièvre hier soir, a appelé le médecin du premier ministre et on a commandé donc un test pour voir, un test de dépistage là, pour voir si elle souffre de la COVID-19 et par mesure de... On dit dans le communiqué de presse du premier ministre, par abondance de précautions, le premier ministre a décidé de se mettre en isolement préventif à la maison. Sophie aussi est en isolement préventif. Et donc, la rencontre là, qui va avoir lieu est annulée ou se tiendra là, dans la mesure du possible par vidéoconférence. Mais ça vous montre vraiment qu'ici, le nombre de cas sur la colline semble être en train d'augmenter. On s'en parlait hier hein, que M. Trudeau avait été à une conférence... à Sudbury, il me semble, où il y avait quelqu'un dans l'assistance qui
Toronto, je crois, Marie. Je crois que c'était à Toronto, une société...
Je pense que l'homme est de Sudbury, mais était à Toronto.
Oui, c'était les sociétés
lumières. M. Trudeau, qui avait été à cette rencontre en présence de quelqu'un qui, par après, étaient diagnostiqués atteints de coronavirus. Donc, déjà, il y avait des inquiétudes. Et bien là, c'est encore plus près dans son cercle, très, très, très là, rapproché, si on peut dire. Donc, M. Trudeau, qui est en isolement préventif, et maintenant deux ministres qui sont en isolement préventif, eux aussi. On sent là, que la situation change très, très rapidement ici aussi pour le gouvernement et pour le Parlement.
OK, vous avez dit deux ministres. Il y a le ministre des Ressources naturelles au CIMUS. Il y en
oui,
a un autre.
Il y a la ministre du Commerce. La ministre du Commerce international, Mary Eng, qui a annoncé hier sur Twitter à son tour qu'elle souffre d'asthme. Elle avait une toux persistante, depuis quelques temps. Donc, elle aussi se fait tester pour la COVID-19 et est en isolement préventif jusqu'à nouvel ordre. Écoutez, il y a même le chef du NPD qui disait qu'il se sent pas bien, qu'il est à la maison. Son médecin, lui, ne pense pas qu'il affiche des symptômes du virus, mais quand même, par mesure de précaution, lui aussi reste chez lui aujourd'hui. Vous voyez que les gens travaillent très, très, très rapprochés ici. On fait des points de presse.
C'est
on
beau. Marie, je dois...
On sent que ça se propage.
Je dois vous interrompre. Merci beaucoup. Il faut aller à la pause parce qu'au retour... Merci, Marie Vastel. Il faut aller à la pause parce qu'au retour, c'est Martin McGuire qui va nous parler. Il y a du nouveau là, dans le domaine du hockey canadien de Montréal et tout le reste.